Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, aujourd'hui je reçois Caroline Miller. Caroline qui connaît bien cette antenne parce qu'elle a animé pendant des années Paroles de Femmes. Bonjour Caroline.
Bonjour Viviane.
Alors Caroline est un découvreur de talent, talent spotter, c'est comme ça qu'elle veut se présenter. Elle est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Head to Head, genevoise, bien connue. Caroline, on va te poser la question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu ?
Ah, c'est joli. écoute, j'étais une petite fille extrêmement vive. Je sais que j'étais particulièrement éveillée et surtout une pile électrique. On me disait souvent que si je mettais mes doigts dans une prise électrique, j'allumais la ville de Genève.
Waouh.
Donc j'étais difficile peut-être à gérer pour certains, mais
pour les parents.
Non, parce qu'en fait, j'ai eu des parents extrêmement inspirants, des parents très dynamiques et sportifs. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents déjà qui accueillaient ce type de personnalité. Je pense que j'ai une enfance extrêmement heureuse.
À quel endroit? Où étais-tu?
En fait, je suis née de parents étrangers, mais à Genève, à Chêne-Bougerie.
Quelle nationalité tes parents?
Mes parents sont... Mon papa est anglo-américain, de mère anglaise, de père américain, et ma mère est prussienne, dont je suis très fière. Et moi, je suis née à la Gradelle, Chêne-Bougerie, qui est un quartier à l'époque qui était magnifique, vraiment un havre de paix pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai été éduquée dans un milieu très suisse, mais avec des parents étrangers. J'étais d'ailleurs la seule petite étrangère dans ma classe à l'époque. C'est quand même marrant. Hein.
Ah oui.
La seule. Et pourtant, c'est pas que je venais de l'Asie ou de l'Afrique. J'étais anglo-américaine, prussienne, mais seule étrangère dans une classe que de petits Suisses. Et si je pense aujourd'hui, mes filles, elles sont, c'est tout l'inverse.
Mais tu te sentais suisse.
Je me sentais suisse. Je me sens genevoise, je me sens américaine, je me sens anglaise et je me sens prussienne. C'est beau.
Citoyen
quand même.
Du monde, un peu.
Oui.
C'est un peu ça.
Exactement.
Oui. Alors, reprenons. Donc, tu es née, tu nous as dit, à Genève. Et puis, tu es allée en classe à quel endroit?
Donc,
tu nous
donc à l'école La Gradelle.
À l'école La Gradelle. Tu as été une bonne élève?
Excellente.
Malgré la pile électrique?
Oui, malgré la pile électrique. D'ailleurs, on était avec une copine, Clara. On était tout le temps en compétition l'une l'autre pour être la première de classe.
Ah oui, c'est bien.
Donc voilà, mais j'ai beaucoup de facilité en fait à l'école. Donc pour moi, ce n'était pas un objectif en soi d'être première de classe. Il se trouvait que j'avais la facilité. Donc après, évidemment, quand on est doué, on a plus de... Enfin, c'est un plaisir aussi d'être identifié comme
bonne
la première
élève.
De classe.
Ouais. Oui.
Bon, il faut quand même que je précise une chose, c'est que j'ai été éduquée par un père américain. Et avec une éducation qui était toujours « be the best ». Donc, je pense que ça m'a un peu poussée
C'est-à-dire
à l'excellence.
Soit la meilleure, soit ouais. toujours la meilleure. C'est très exigeant, ouais. mais c'est ce qu'on devrait répéter aujourd'hui à tous les enfants.
Ouais. Mais voilà.
Et qu'on ne fait pas.
Non.
mais... On est dans un monde qui est plutôt niveleur, on est dans un monde d'excellence. On va
Exactement.
En parler tout à l'heure. Alors, après ça, qu'est-ce que tu as fait comme études?
Après, j'ai fait des études tout à fait classiques. Hein. J'ai fait mon cycle en latine. Ensuite, j'ai fait la classique au collège de Candolle, donc toujours très jeune voix, pour finalement faire quand même une maturité que latine. Parce que j'ai fait 2 ans de grec et au final, le latin, ce n'était pas ma grande passion. Mais comme à l'époque, on nous disait que c'était la meilleure maturité, c'était la maturité classique et latine. Moi, idéalement, j'aurais voulu faire des langues et les arts. Je voulais même d'ailleurs faire une maturité artistique à Claparède. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ces profs nous disaient toujours que c'était les mauvais qui allaient en artistique.
Charmant.
N'importe quoi. Et qu'il fallait faire la classique, intelligente comme j'étais, je devais faire les meilleures études. Au final, j'ai détesté le latin. J'aurais tellement aimé faire la partie plutôt musique ou artistique. Bon voilà, j'ai fait mes études puis pour finalement faire ensuite des études universitaires à l'Université de Genève.
Dans tout politique. Le parcours est genevois?
Tout le parcours est genevois.
Tu n'as pas eu envie d'aller aux États-Unis?
J'aurais adoré aller aux États-Unis. J'ai fait un trimestre à Berkeley, mais qui, je ne considère pas avoir fait des études sur place. J'y suis allée parce que j'avais rencontré quelqu'un et
le cœur avait
un
parlé.
Américain et avec lequel j'avais envie de faire un bout de chemin et je m'étais inscrite à Berkeley pour la deuxième année d'études et en rentrant à Genève en fait j'ai rencontré celui qui est devenu après mon mari.
Ah oui.
Et
ça c'était un motif sérieux.
Oui, j'étais amoureuse d'un Américain en revenant pour finalement faire toute ma paperasse pour partir en Amérique. J'ai rencontré Ludovic. Et puis, coup de foudre, j'ai décidé finalement de rester. C'est bête parce qu'en fait, j'aurais pu être aux États-Unis, mais j'aurais peut-être pas eu les filles que j'ai maintenant, qui sont magnifiques.
Alors, on va écouter un peu de musique et on reprendra tout à l'heure.
« lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Never loved nobody the way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Caroline Miller. Caroline Miller qui est un découvreur de talent, nous allons le voir tout à l'heure, et qui pour le moment nous raconte sa jeunesse genevoise, avec une petite incursion américaine, mais pas longtemps, puisque nous avons vu le cœur à parler. Alors, quelle a été ta vie de jeune femme ?
Vie de jeune femme, toujours dans le même style que mon enfance, enfin, toujours extrêmement dynamique, positive, heureuse. J'ai eu énormément de chance dans ma vie, au final, d'être entourée de gens incroyables, de gens inspirants, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, que ce soit les personnes que j'ai pu croiser par mes études, par les différentes activités professionnelles que j'ai aussi eues pendant mes études.
Alors, quelles ont été ces différentes activités professionnelles?
Alors, comme je faisais des études, parce qu'en fait, mon rêve a toujours été d'être médecin. Je voulais être chirurgienne. Et le problème, c'est qu'à un certain moment, vers la fin de mon adolescence, je voulais être indépendante financièrement, quitter mes parents. Et malheureusement, faire des études de médecine, c'est pas compatible avec une indépendance financière vis-à-vis de ses parents.
Non, parce que ce sont de très longues études.
Oui, et c'était plus fort que moi de quitter le nid familial et d'être indépendante. Ça, c'est un trait de caractère qui est très fort chez moi, l'indépendance. Et du coup, j'ai opté pour les études universitaires, les plus simples, qui sont pas forcément très, enfin, qui sont intéressantes pour certaines personnes. Moi, elles étaient intéressantes parce que c'était économique, c'était politique. J'ai fait les sciences politiques, une partie d'économie politique, l'université de Genève. Et pendant mes études, en fait, c'est ça qui était fantastique, c'est que j'ai travaillé à mi-temps.
Et qu'est-ce que tu as fait?
Et là, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler. Mon premier job était dans les bureaux suisses du fils aîné du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
D'accord.
Et j'ai travaillé donc pour le prince Mohammed.
Et comment est-ce que tu l'avais rencontré?
Parce qu'en fait, la directrice générale de l'entreprise en Suisse était une amie de mes parents. Elle était la tête de cette société depuis une vingtaine d'années.
Et que
en fait,
faisait cette société?
Donc, c'était une société dans l'immobilier. Il a été propriétaire de beaucoup d'immeubles en Suisse et en France.
Donc, c'était une sorte d'immobilière.
C'était, on va dire, plus la gestion de ses avoirs immobiliers ainsi que de ses voitures, de ses différentes résidences. Et puis là, c'était vraiment toute la partie, on va dire, administrative, comptabilité, etc., que j'ai fait pour lui. Mais ce qui m'a exposée au final, pour la première fois, au Moyen-Orient, qui est une région du monde que j'aime énormément, puis avec une autre culture, et puis ce qui m'a permis aussi de pouvoir avoir un salaire pendant mes études. Et puis, c'est à la fin de mes études universitaires que j'ai eu la chance de rencontrer une personne, au final, que je n'aurais jamais dû rencontrer, parce que je ne voulais pas travailler dans les banques. J'avais quand même postulé, comme on fait beaucoup, on postule dans les grandes banques suisses, on postule, à l'époque on postulait, enfin il faut bien préciser qu'on est au début des années 90, hein, on est en 1990 pour être précis. Et puis j'ai postulé auprès des trois grandes banques suisses à l'époque, la SBS, l'UBS et le Crédit Suisse, et puis avec les grosses boîtes de marketing, P&G et autres. Et il s'est trouvé que j'ai eu le coup de foudre, enfin, on s'entend, hein, mais le coup de foudre professionnel.
Platonique.
Oui, platonique.
Cette fois-ci.
Pour le patron, à l'époque, de tout ce qui n'était pas gestion de fortune, mais qui gérait, on va dire, la partie, tout ce qui fait tourner, en fait, une entreprise, que ce soit les télécoms, l'administration, les bâtiments.
Alors, c'était dans quelle banque?
De l'UBS. UBS, Union de Banque Suisse à l'époque.
Okay.
Et c'était un homme extraordinaire qui était mon premier mentor dans la vie, Jean-Paul Turian, qui était à l'époque donc, le patron des services pour tout ce qui est UBS à Genève, et avec lequel j'ai travaillé 7 ans.
À l'époque, tu étais mariée déjà?
Non, pas du tout.
Pas encore,
Dieu, j'étais toute jeune. En plus, comme je suis sortie de l'Uni extrêmement jeune, comme ça, j'ai plutôt eu de la facilité. Mais à 21 ans et demi, j'ai commencé à travailler avec ma licence en poche, qui aujourd'hui est équivalent d'un master. Mais donc, j'ai commencé à l'Union Banque Suisse en septembre 1990. Et c'était 7 ans extraordinaires. Dans un univers auquel je n'avais pas forcément d'affinité au départ, mais c'était la belle époque des banques.
Et qu'est-ce que tu appelles la belle époque des banques?
La belle époque des banques, c'est qu'on n'avait pas ce qu'on vit aujourd'hui et avec lequel je suis confrontée tous les jours. C'est le chômage, c'est les restructurations, les fusions, les pressions, tout ce qui est régulatoire, tout ce qui est compliance, tout ce qui est chasse aux sorcières, tout ce qui est... pression.
En fait, les banques gagnaient largement leur vie et du coup pouvaient gâter leur personnel. En gros,
oui,
c'est ça.
Oui, on était bien, on avait des projets magnifiques, on était dans le développement, dans la croissance, on avait autant des employés qui étaient des gens sans aucune formation. Dans les banques, on avait beaucoup de personnes qui étaient, par exemple, surtout du côté trafic des paiements, qui étaient des anciens boulangers, des anciens. On avait des bouchers, on avait des gens qui n'avaient aucune formation, même à la base, puis d'autres qui étaient des MBA, qui étaient des gens extrêmement éduqués. Et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'en fait, on avait tout type de personnalité. Et puis, comme on était en fait au service des banquiers, on avait la chance de pouvoir. Moi, je pouvais fréquenter autant des personnes. Qui étaient, on va dire, des manutentionnaires, des ingénieurs, des gens dans les télécoms, des traducteurs, que des architectes, que des banquiers, des gestionnaires de fortune ou des gens dans les crédits.
Donc une belle époque.
Magnifique.
On va écouter un peu de musique à nouveau, si tu veux bien.
Oh, oh. Hold it. I need a tough love, yeah, yeah, yeah. I need a tough love, woo. I need a tough love, yeah, yeah, yeah. A tough love, yeah, yeah. When he kisses me, I get that thrill. When he don't wake. Yeah.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Caroline Miller. Caroline Miller, découvreur de talent, comme on va le voir bientôt. Caroline, tu es donc à l'UBS. Tu nous dis que c'est une période rêvée parce que les banques à l'époque, c'est un joli monde, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On est bien d'accord, on en parlera tout à l'heure peut-être. En tout cas, tu n'es pas encore mariée. Tu n'es donc pas encore allée à Berkeley. Tu n'as pas encore rencontré un autre monsieur que tu as abandonné pour ton mari. Mais tu es heureuse, tu es une jeune femme comblée. Et puis un beau jour, l'amour te tombe dessus. Alors comment est-ce que tu as réussi à, je dirais...
À combiner les deux.
À combiner les deux. C'est le problème de toutes les femmes. Alors raconte-nous ça.
En fait, c'est la rencontre avec mon mari, enfin, qui est d'ailleurs mon ex-mari maintenant. Donc, il y a quand même des...
Ah, ça se complique, là.
Oui. Enfin, ma vie, elle est, on va dire, si je pouvais la résumer, elle est faite de grandes passions, de grands amours.
Une belle vie.
D'échecs, parce que c'est une vie,
comme
elle ne peut pas être sans échecs, elle ne peut pas être sans douleur. Mais je pense que quand on vit des échecs, on vit des ruptures, on vit des choses difficiles, je pense qu'on valorise encore plus les choses qui étaient belles, qui étaient intenses, qui étaient passionnées. Et comme ma vie est faite de tout, et que j'ai la chance d'avoir été toujours extrêmement positive, donc le titre de l'émission est juste magnifique, parce que toute ma vie, je l'ai toujours vue comme une
la bouteille à moitié pleine.
Mais oui. Et c'est extrêmement important, cet optimisme. Et je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est toujours de pouvoir voir le monde avec un œil heureux et puis positif. On m'a d'ailleurs souvent dit que j'étais peut-être un peu naïve, parce que je regardais toujours le monde avec beaucoup de...
Des jolies lunettes.
Avec des jolies lunettes, exactement. Parce que je trouve que toute personne a toujours quelque chose de bon, quelque chose de beau. D'ailleurs, maintenant, avec mes candidats aussi, je vois toujours le côté positif des gens. Et dans ma vie, malgré les difficultés, parce qu'il n'y a pas eu que l'époque génialissime de l'UBS, parce qu'on était dans les bonnes années, mais j'ai aussi connu des époques moins heureuses aussi dans le milieu bancaire, parce que par la suite, j'étais encore dans une autre banque, qui était la banque Lloyds, qui, elle, a malheureusement eu une très triste fin ici à Genève, vu qu'elle a été vendue, démantelée et vendue. Mais il y a des périodes dans la vie, je pense, où, en l'occurrence, quand on a la chance de pouvoir évoluer dans un univers positif et constructif dans un premier temps, ça nous donne des bonnes bases pour ensuite appréhender les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer, et puis surtout d'aider les autres. Parce que moi, j'ai eu cette chance, justement, je parlais tout à l'heure de mon mentor, mon premier mentor. J'ai eu la chance après d'être aussi mentor pour d'autres, d'ailleurs même pour son fils, qui aujourd'hui fait une carrière assez géniale d'ailleurs dans les banques. Quand on peut rendre ce qu'on nous a donné, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important.
La vie est un give and take.
Exactement. Et comme en tant que femme, je pense que c'est tout particulièrement important, comme nous déjà on donne la vie, on transmet notre amour, on transmet la vie à un individu, ou à des individus, et ensuite on est dans l'éducation. Je pense que dans notre rôle, dans la société, c'est la même chose. Une femme, elle a un rôle particulier à jouer, en tant que professionnelle, en tant qu'amante, en tant que maman, en tant qu'amie.
C'est dur, toutes ces facettes, et toujours
des facettes,
au top partout.
Oui, et ça, c'était quelque chose, j'ai eu des moments, d'ailleurs, pendant cette période rose de l'UBS, c'était quand même des périodes très intenses, on bossait comme des dingues. J'ai quand même connu déjà ma première... J'avais frisé le burn-out.
Ça arrive, je sais aussi qu'on
peut, malgré que j'ai une énergie où je peux allumer la ville de Genève, parce que j'avais toujours une énergie au-dessus de la moyenne, si on ne s'écoute pas, et puis on n'est pas en ligne avec ses valeurs, et puis on n'arrive pas à voir où sont nos limites, on peut aussi se cracher, on peut aussi faire des graves erreurs.
C'est important de dire ça.
Et avec l'âge, on devient plus lucide, on devient plus conscient aussi de ses limites, et puis de ce qu'on peut donner aux autres, parce que, yes, it's a give and take, enfin, on donne et on prend dans la vie. Mais il y a aussi des moments où... Peut-être on a plus besoin de prendre, parce qu'on est dans une période un peu difficile, on a besoin d'être aidé. Puis il y a d'autres périodes où on peut beaucoup donner, parce qu'on est dans une période haute, positive, heureuse.
Alors, tu as évoqué tout à l'heure un divorce, puis un remariage.
Non, pas un remariage.
Non, pas de remariage.
Non, je suis, en fait...
Tu es en couple.
Non, je suis non. même... Non,
célibataire.
Je suis célibataire.
Est-ce que tu es célibatante?
Non, pas célibatante.
D'accord.
Je trouve simplement que je n'ai pas rencontré de nouveau la personne avec qui j'ai envie de faire un autre bout de chemin. Très ouverte à la rencontre, mais
bon,
pour l'instant...
Bon, messieurs qui écoutaient l'émission, pourquoi pas.
Mais je ne veux pas être une de ces personnes qui doit être en couple parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple parce qu'ils sont malheureux ou ils n'arrivent pas à être seuls.
D'accord.
Moi, je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui, très... pas complète.
Si, c'est le mot aussi. En quelque sorte, tu n'as pas besoin d'une moitié pour exister.
Ah non. Et puis, je pense qu'un couple qui a besoin de l'autre pour exister, c'est faux déjà, à la base.
Oui, la béquille, c'est pas bon.
On doit être deux entités pleines.
Tu as des enfants, Caroline ?
Oui, j'ai deux filles magnifiques.
Tu as cité tout à l'heure leur existence.
Sophara et Maliwan. L'une va avoir 16 ans tout bientôt et l'autre a 13 et demi. Et ça, c'est... Pour moi, je pense le plus grand bonheur.
C'est la joie de la vie, la maternité.
Oui. Ça nous remplit justement quand on est maman tout court, hein, que ce soit un enfant, plusieurs enfants, une fille ou des garçons. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, en fait.
C'est vrai. On va écouter encore un morceau que tu nous as choisi.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitt,
La bouteille à moitié pleine.
Caroline Miller, on l'a vu, une femme heureuse, une femme qui a eu des hauts et des bas dans sa vie comme nous toutes, une femme complète, qui n'a pas besoin d'une béquille dans la vie, même si elle a eu des difficultés, elle les a surmontées, elle a créé une très belle entreprise, Head to Head. Raconte-nous cette aventure-là.
Oui, alors Head to Head est une entreprise qui me tient particulièrement à cœur. C'est déjà rien que le nom, Head
tête
to Head,
tête.
Parce que c'est vraiment le tête à tête. C'est comme on est maintenant, on est en tête à tête. On est dans un dialogue. Donc certes, je fais ce qu'on appelle dans le langage courant professionnel de la chasse de tête. C'est-à-dire que des
mais tu
clients,
n'aimes pas cette expression-là.
Je déteste cette expression.
Dit, je ne suis pas un chasseur
non.
de tête, je suis un
mais les
un
gens
découvre.
Me catégorisent souvent, ou me mettent dans ce type de catégorie, parce que dans le recrutement de hauts cadres et de dirigeants, on appelle ça de la chasse de tête.
Mais tu
et
m'as moi, dit, je suis un découvreur de talent. J'ai
exactement.
Beaucoup aimé l'expression, découvreur
et
de talent.
En fait, c'est venu un jour où j'étais en fait assise dans le train et il y avait une personne qui m'écoutait. Il faut toujours être extrêmement discrète quand on parle. Et elle me demandait, mais madame, est-ce que vous êtes dans, vous faites du casting? Et j'ai trouvé ça tellement joli parce que j'ai dit, en fait, oui, je fais du casting. Je fais du casting professionnel. Donc, c'est comme si je faisais un Star Academy.
C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de matcher des personnalités avec
oui,
des entreprises.
Parce qu'avant tout, on cherche toujours des compétences. On va chercher le professionnel, le CFO, enfin, le directeur financier, le directeur général, le directeur de la com, etc. pour les entreprises. Mais avant tout, on cherche une personnalité. Et chercher une personnalité, c'est un talent. C'est une vie, c'est une histoire, c'est un savoir-faire, c'est tout ce qui fait la richesse d'une personne. Et donc, en fait, ce que moi, je cherche avant tout, c'est des talents. Et un talent ne veut pas juste dire quelqu'un qui est super doué ou super intelligent. Un talent, c'est une multitude de compétences, c'est une histoire, c'est une composition. C'est comme une composition musicale. C'est une personne dans toute sa richesse et dans toute sa beauté.
En quelle année as-tu créé cette entreprise?
Alors, je l'ai créée une première fois, en fait, à la sortie de ma période où j'étais responsable de la faculté de médecine comme administratrice. Ça, c'était en 2001. Et puis, ensuite, j'ai rejoint à nouveau le monde institutionnel en rejoignant une banque. Et en 2009, quand j'ai requitté le monde bancaire, j'ai remonté ma boîte. Donc, ça fait 5 ans et demi que j'ai Head to Head. Et aujourd'hui, donc, Head to Head fait du recrutement, évidemment, au niveau. Mais je fais aussi beaucoup de missions in-house, en fait, auprès des entreprises. Hein,
donc,
en tant que manager.
Donc, à l'intérieur, voilà.
Ouais.
À l'intérieur de l'entreprise.
Je suis en train de travailler sur un projet qui est très important et qui touche en fait à ce qu'on vit aujourd'hui, en 2015, à Genève. Et Genève est touchée très fortement par le chômage. Et c'est un tabou encore à Genève, même si on dit qu'il y a du chômage. Mais les chiffres qui sont énoncés officiellement sont faux. Il n'y a pas uniquement 8 et des poussières de pourcents de chômeurs. Il y a énormément de chômeurs invisibles, les chômeurs longue durée, il y en a de plus en plus. Il y a tous les indépendants qui sont dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui. Eux aussi ne sont pas dans les chiffres. Les personnes, les mamans, par exemple, ou après congé maternité, ne sont pas dans les chiffres. Les personnes inscrites en chômage longue durée ne sont pas dans les chiffres. Les jeunes qui démarrent dans la vie, qui ne sont pas encore inscrits au chômage, ne sont pas dans les chiffres. On est, à mon avis, plus autour des 20%.
Et tu penses qu'on est dans un déni du chômage?
Déni total.
Est-ce que c'est une vision politique?
Parce que c'est une vision, déjà au niveau des entreprises, c'est une vision... On ne veut pas en parler parce que sans ça, les entreprises devraient prendre des responsabilités vu que c'est eux qui mettent ces gens au chômage. Et on est en train de créer à Genève une bombe à retardement social.
Alors, je vais te poser une question immédiate. On sait qu'il y a à Genève un traitement social du chômage qui est plus favorable que dans le reste de la Suisse, non?
Non.
C'est faux?
Oui.
Alors c'est très important d'en parler.
Oui. C'est peut-être le cas officiellement, mais moi, je vois la réalité. C'est-à-dire que moi, je gère tous les jours des gens qui sont au chômage. Évidemment, du côté de mon métier, normalement, je devrais aller débaucher les gens, vu que c'est ça qu'on demande dans une partie de mes activités. Mais de plus en plus, moi, je promouvois avant tout des candidats qui sont au chômage, et surtout les chômeurs longue durée, parce que ce sont des personnes qui ont été les victimes de ces réorganisations, fusions, relocalisations d'entreprises.
Tu veux dire par là que ce ne sont pas des gens qui avaient démérité, ce
Mais
sont
pas
des
du
gens
tout.
Qui
sont... Ils sont fantastiques. Voilà. Il y a des gens extraordinaires actuellement sur le marché. Et puis, les entreprises qui, évidemment, ne pensent qu'à satisfaire leurs actionnaires le plus rapidement possible. Donc,
les fonds de pension, c'est ça?
Oui. Ils veulent arriver dans leur chiffre noir. Ils veulent pas de chiffre rouge. Ils veulent pas être dans des situations financières difficiles. Donc, on se sépare un maximum de ces personnes. On se sépare, évidemment, toujours des 50 plus. Ou bien des personnes qui éventuellement...
Mais on perd de l'expérience, on perd aussi des acquis.
Mais tout, on perd toute une histoire, on perd des savoir-faire, on perd...
Et ça tourne quand même.
Ah ben, à mon avis, et ça c'est moi qui vous l'annonce, avec tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, toutes les interactions que j'ai aussi avec les entreprises, on est en train de créer une bombe sociale à retardement. Et ça va nous péter à la figure. On sort peut-être éventuellement d'une crise économique aujourd'hui. Moi je l'avais annoncé d'ailleurs dans un article que j'avais écrit dans Le Temps. Fin 2014, les économistes nous disent « nous sortons de la crise ». Certes, la crise financière peut-être, mais nous entrons actuellement dans la crise sociale. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces chômeurs ? Et c'est pour ça qu'un projet que je suis en train de développer avec Head to Head, qui me tient particulièrement à cœur, que je vais lancer officiellement à la fin de l'année, parce que c'est un long projet avec lequel je vais impliquer les autorités cantonales, que ce soit vaudoises et genevoises pour l'instant, et puis les entreprises et les chômeurs, c'est de faire la réinsertion de chômeurs longue durée dans le système économique, mais avec un et là je reste sur mon concept head to head, c'est créer des couples. Donc c'est des couples entre des seniors et des juniors. Parce que je pense que les seniors ont énormément à apprendre des juniors, c'est les vingtenaires, c'est cette nouvelle génération que j'adore, qui est fantastique, qui va, à mon avis, nous aider à préparer le futur, et qui sont notre futur d'ailleurs, et nos seniors, mais qui ont toute la connaissance et le savoir-faire et l'expérience.
On va écouter à nouveau un peu de musique et puis on va revenir à ça parce que c'est un sujet passionnant et central.
Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique. Une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée Sissi impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte idéale, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme banquière planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique et femme chirurgien esthétique. Être un major de promotion, parler si langue, ça tue marron. Championne du monde des culturistes et messie-ci impératrice. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonner jusqu'au port jartel et au steward rouler des pelles.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans La Bouteille à moitié pleine. La Bouteille à moitié pleine avec Caroline Miller, qui est justement l'incarnation de cette personne qui regarde le monde à travers de belles lunettes, mais surtout une bouteille à moitié pleine, et qui aide beaucoup de gens à se sortir de situations qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas souhaité, c'est-à-dire du chômage. Et tu aides ces personnes, tu l'as dit tout à l'heure, avant la musique que nous avons écoutée, Caroline, tu as dit « je crée des couples senior-junior ». Ça, c'est formidable. Reparle-nous de ça.
Oui, donc ça, c'est encore au stade du projet, avec, parce que je suis en train de constituer une task force, enfin un groupe de travail avec lequel on va concrétiser ce projet en quelque chose de réel. Vu que moi, je crois pertinemment au fait qu'il faut travailler essentiellement aujourd'hui sur les chômeurs longue durée, enfin chômeurs, voire chômeurs longue durée, parce qu'il y en a de plus en plus, et les aider à remettre le pied à l'étrier. Et surtout, à changer la vision que les entreprises ont de ces chômeurs longue durée. Parce qu'ils restent encore vus auprès des entreprises comme des personnes qui déméritent, donc c'est des gens qui sont mauvais et qui sont au chômage parce que, et s'ils sont au chômage longue durée, c'est parce qu'ils n'étaient pas bons. Et donc, il y a tout un travail d'explication, de repositionnement de ces chômeurs-là auprès des entreprises. Donc, c'est un projet qui va aboutir effectivement à créer des couples, des binômes entre des seniors.
Des gens qui ont l'expérience, oui, avec des gens qui débutent dans la vie.
Exactement, parce que je crois profondément, et ça c'est de nouveau un rôle de femme, je pense qui est mon rôle de mentor que j'ai eu dans ma vie, c'est de créer du mentorat entre des seniors et des juniors. Parce qu'on peut apprendre dans les deux sens, c'est très important, et de créer cette passerelle entre les générations pour ensuite les intégrer dans un univers institutionnel, un univers d'entreprise, aujourd'hui, qui vit avec quatre générations. C'est une des premières fois qu'on a quatre générations actives.
Avec l'allongement de la vie.
Oui.
Je voudrais revenir, Caroline, à quelque chose que nous avons dit très brièvement tout à l'heure, mais qui nous intéresse beaucoup, qui est central aussi pour nos auditeurs. Il est communément admis que le traitement social du chômage est plus favorable à Genève que dans le reste de la Suisse. Tu dis non. Peux-tu expliquer pourquoi ?
Enfin, quand on dit, j'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi on dit qu'il est plus favorable. C'est peut-être sur ces points-là que je pourrais dire non.
Mieux rémunéré, on va dire comme ça.
Bon,
non. Mais c'est possible que non. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir.
Enfin, moi,
j'ai pas fait
de comparaison avec le reste de la Suisse. Tout ce que je sais, c'est que il y a des choses extrêmement choquantes en termes de rémunération des chômeurs aujourd'hui. Déjà, si on prend rien que les normes de base, c'est-à-dire, on a droit à 18 mois de chômage. Sur les 18 mois, déjà, votre salaire, vous touchez pas les 80% de votre dernier salaire. Déjà, il est plafonné à un salaire de 8 000 brut. Donc, Genève est connue pour être une plateforme financière avec aussi toute l'attrait des multinationales autour. Donc, des gens qui ont des salaires largement au-dessus. Donc, déjà, à ce niveau-là, on n'est pas plus favorable, on est même moins favorable que le reste de la Suisse, vu que les salaires chez nous sont déjà plus élevés que le reste de la Suisse. Mais donc, là, ils sont déjà plafonnés à un certain niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, mais je pense que c'est la même chose partout ailleurs, mais ça m'a particulièrement choqué que ça existe. Les gens qui sont au chômage et qui tombent malades, parce que souvent, les gens au chômage, c'est les gens à partir de 50, 45, 50. Il y a de plus en plus de cancers à Genève ou de maladies assez graves, avec des traitements difficiles et longs. Tu es comme toi, comme moi, il y a encore très peu de temps. Moi, je ne savais pas que le délai de chômage continuait de tourner pendant la maladie de la personne.
Non,
j'ai récemment une candidate cancer des lymphomes, un mois après être enregistrée au chômage, 56 ans. Elle se retrouve à faire un traitement extrêmement lourd, greffe de la moelle. Donc, vous êtes dans une chambre stérile pendant plusieurs mois. Enfin, des traitements extrêmement lourds. Elle termine son traitement, qui est pratiquement sur une année, et on lui annonce qu'elle est sortie du délai de chômage. Donc, elle est en chômage longue durée pour une personne qui n'a même pas eu la possibilité de faire une recherche d'emploi vu qu'elle est en traitement.
Et c'est effrayant.
C'est effrayant, ça. Mais c'est vrai, on ne prend... au chômage. Et on ne peut pas dire que Genève, c'est favorable. On n'offre pas de chômage à des personnes qui sont... Donc, on ne prolonge pas leur délai de chômage.
Alors, Caroline, qu'est-ce que tu préconises ? En dehors de tes couples senior-junior, qu'est-ce que tu préconises pour aider à, en partie, parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué, les politiques s'y astreignent, à éradiquer en partie ce chômage ?
Il faut absolument repenser au niveau politique et au niveau économique. Il faut que les représentants économiques des entreprises ainsi que les autorités politiques, elles se mettent autour de la table et qu'elles révisent les lois actuelles et les règlements qui s'appliquent au chômage. Parce que ce qu'on a aujourd'hui comme normes et directives, ça s'appliquait aux années 70. On avait très peu de chômage et pourtant à l'époque, on avait déjà eu un premier pic. Mais ça n'a pas été révisé depuis. Si on continue à appliquer les lois qui sont complètement désuètes par rapport à la situation gravissime qu'on a aujourd'hui avec le nombre de chômeurs, autant les chômeurs officiels que les chômeurs invisibles, mais on va droit dans la catastrophe. C'est comme à l'époque quand on annonçait qu'on va vers la fin du secret bancaire, que ça va impacter les banques de manière drastique. Tout le monde continuait comme si de rien n'était. On est dans le même cas aujourd'hui que le chômage. Le problème, c'est qu'au niveau des lois actuelles, ça protège beaucoup le fonctionnariat. Et le fonctionnariat, évidemment, si on commence à mettre, et ça tout le monde le sait, si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de changer les statuts au niveau de l'administration publique, je veux dire, c'est comme entrer dans un monde où il y a une montée de protectionnisme et puis une montée de boucliers qui est juste, c'est presque limite surnaturelle. Je pense que ça va être extrêmement difficile de le changer parce qu'il faut le prendre au niveau des racines. Il faut impliquer de manière... mais plus qu'impliquer, en fait, il faut forcer les politiques à faire face à cette problématique, mais y intégrer et faire travailler en partenariat le monde économique, donc les décideurs aujourd'hui, les conseils d'administration comme les directions d'entreprise, à travailler ensemble avec le politique pour repenser complètement les lois qui régissent les chômeurs. Parce qu'on est franchement dans une situation gravissime et personne ne veut voir la bombe qui va nous exploser à la figure.
Caroline, on arrive malheureusement presque au terme de cette émission pendant laquelle nous avons découvert ton personnage. Je répète que tu es découvreur de talent, que tu as créé cette société Head to Head, qui est une recherche de talent, matcher des entreprises avec des personnes et tu choisis plutôt des personnes au chômage que des personnes à débaucher dans la vie déjà professionnelle. Nous avons entendu la bonne personne que tu es, la personne pleine de sève, pleine de qualité, pleine d'enthousiasme. Nous aimerions beaucoup faire une autre émission avec toi pour continuer à parler de ces problèmes. Nous sommes obligés malheureusement aujourd'hui de clore là, mais j'aimerais beaucoup savoir si tu as un projet pour interpeller les politiques, parce qu'au fond, beaucoup de choses dépendent d'eux à Genève.
Ah, tout à fait, et c'est pour ça que je constitue actuellement le groupe de travail dans lequel je vais intégrer des représentants du politique. Parce qu'on ne peut pas juste travailler de notre côté et ensuite venir le présenter, parce que ça ne va pas marcher. Il faut absolument, à la source, avoir déjà des gens qui sont impliqués, qui sont des décideurs ou en tout cas des gens influents du milieu politique. Donc, je vais m'adresser à Pierre Maudet, je vais m'adresser à M. Broulis dans le canton de Vaud. Je vais faire en sorte qu'il me permette d'avoir des personnes de leur direction dans le groupe de travail pour qu'on puisse vraiment faire changer les choses.
C'était Caroline Miller donc, qui a créé Head to Head, qui est découvreur de talent à Genève, qui est cette femme formidable que j'ai été heureuse d'interviewer aujourd'hui. Je suis sûre que nos auditeurs ont beaucoup aimé aussi cette sève et ce côté bouteille à moitié pleine bien nommé pour aujourd'hui. Merci Caroline.
Merci à toi Viviane.
Et puis je remercie Jackie Elzesser qui a enregistré l'émission et Alexandre Jean-Renaud qui va la monter. À bientôt.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte, la bouteille à moitié pleine.